Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Et c'est moi donc qui ai la charge aujourd'hui de apporter le message de Dieu. C'est une joie, c'est un privilège, c'est une responsabilité aussi en même temps. Et nous prions le Seigneur que véritablement chacun de nous puisse comprendre quelque chose. Prions. Père, nous sommes devant toi. Nous voulons écouter ta parole. Nous sommes là pour entendre de toi. Tu dis que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nous sommes là pour écouter cette parole qui sort de ta bouche. Nourris-nous, éternel Dieu, au nom de Jésus, et donne-moi de transmettre quelque chose de ta part réellement, au nom de Jésus. Amen. Donc, nous sommes toujours dans le cadre de la vie en Christ, comme on l'a dit, comme le pasteur Eman l'a demandé. On est toujours dans le chapitre de la vie en Christ. Et aujourd'hui, nous allons aborder quelque chose que nous vivons au quotidien dans la vie en Christ, au niveau personnel et au niveau communautaire. Donc, nous allons faire le mix des deux. En Christ, vous voyez, nous sommes ici. Aujourd'hui, on est venu et la sœur Jeanne a fait les annonces. La chorale a donné des chants. Il y a maman, comment ça s'appelle? Thérèse, qui est restée devant là-bas pour accueillir les gens. Il y a les deux dames, maman Inès et puis maman Clémentine, qui sont descendues, qui vont aller enseigner les enfants. Il y en a qui ont fait la prière. Il y a le frère Moussa qui est venu faire la prière. Donc, on est dans la famille de Dieu, on travaille. On fait beaucoup de choses. OK? Et quand on travaille, normalement, on doit être évalué. Notre employeur doit nous évaluer un peu comme dans le monde. Notre travail nous évalue. Notre employeur nous évalue. Dans le monde, on nous évalue sur le résultat, principalement, n'est-ce pas? On nous donne une mission à faire. On dit, la sœur Mariam, va, il faut que tu nous envoies 20 clients ce mois. Donc, Mariam va, elle fait son truc et puis elle envoie 20 clients. Et puis l'employeur dit, OK, c'est bon, tu as envoyé 20 clients. Donc, le mois prochain, envoie plus. Et en fonction de cela, l'employeur soit lui donne une augmentation, lui donne une promotion. Ou bien, si elle n'a pas travaillé, peut-être on lui donne un avertissement une fois. On voit que deux fois, ça continue. Trois fois. Et puis l'employeur peut dire, non, ton travail ne me convainc pas. Moi, je ne veux pas te garder parce que tu ne rentres pas dans ce que nous voulons. Et elle sera licenciée. Mais dans le cadre de Dieu, le résultat, ce n'est pas la chose qu'il évalue d'abord. Et ça, ça contraste avec le travail dans le monde. Et c'est un problème pour nous à l'Église parce qu'on veut juger le travail comme on le juge dans le monde. Mais notre Dieu, il ne juge pas comme on juge dans le monde. On va lire Matthieu 7. 21 à 23. Matthieu 7, 21 à 23, qui dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Je vais m'arrêter là d'abord avant de lire le verset 23. Donc, ce qu'on voit ici, ceux qui disent, Seigneur, est-ce que nous n'avons pas prophétisé par ton nom? Est-ce que nous n'avons pas chassé des démons par ton nom? Est-ce que nous n'avons pas fait des miracles par ton nom? Ceux-là, est-ce qu'ils ont travaillé? Je crois qu'on peut répondre oui. Ils ont travaillé, n'est-ce pas? Ils ont travaillé, puisqu'ils ont décrit le travail qu'ils ont fait. Ils ont chassé des démons. Ils ont prophétisé. Ils ont fait des miracles. Première question. On répond oui. Deuxième question. Est-ce que le résultat attendu a été atteint? Oui, il a été atteint. Parce que le Seigneur n'a pas dit non. Vous voyez, la femme samaritaine, lorsque Jésus a dit, appelle ton mari. Et puis elle a dit quoi? Elle a dit, Seigneur, je n'ai pas de mari. Il a dit quoi? Il a dit, non, non, non. Toi, Tu as cinq maris. Tu as cinq maris. Celui avec qui tu es actuellement n'est pas ton mari. Alléluia. Donc, le Seigneur Jésus, quand les gens parlent, quand ils donnent les choses, quand c'est faux, il va dire que c'est faux. S'il dit rien, ça veut dire que la chose a été faite. Donc ceux-là, ils ont travaillé. Effectivement, ils ont chassé des démons. Effectivement, ils ont prophétisé par le nom du Seigneur. Effectivement, ils ont peut-être guéri des malades. Effectivement, on est venu, on a chanté. Effectivement, la sœur Jeanne a donné les annonces, right? Effectivement, on a fait notre offrande, n'est-ce pas? On a fait le temps des offrandes. Effectivement, chacun a fait. Effectivement, les gens sont en bas en train d'enseigner les enfants. Les gens, ils ont fait. Ils ont fait, réellement. Ils ont fait le travail. Et ça a même pu porter du fruit dans la vie des gens. Mais la réponse que le Seigneur il donne au verset 23, elle est quand même bizarre. Il dit, alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Ça, c'est déjà, ça semble bizarre. Je ne vous ai jamais connu. Donc, tout le temps qu'ils ont travaillé, Seigneur, tu ne les as pas connus. Ah ouais. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, ces gens, ils ont travaillé, ils ont eu des résultats, et pourtant le Seigneur les a licenciés. On pourrait dire que notre Dieu n'est pas juste. Peut-être pour vous, je n'ai pas pour vous convaincre de quelque chose, on va lire Philippiens 1. C'est ça dans Philippiens 1, 15, si j'ai bien le verset en tête. Oui, c'est ça. Alléluia. Philippiens 1, 15 à 17. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de susciter quelques afflictions dans mes liens. Est-ce que vous voyez? Donc, j'ai vu que c'est comme si j'avais un peu de doute sur est-ce que les gens ont eu des résultats. Et donc, c'est pour ça que je donne ce verset-là qui n'était pas prévu. Paul dit qu'il y en a qui annoncent le Seigneur comme pour lui créer des problèmes. Ah, c'est lui qui le dit. Par esprit de dispute. Et le verset 18, c'est ça qui me plaît. Qu'importe, de toute manière, que ce soit par l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Et je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Ça dit que ceux-là, même quand ils annoncent Christ, ils annoncent Christ réellement. Donc, il y en a qui vont être convertis. Vrai ou faux? Mais ils annoncent dans leur tête, ils veulent faire du mal à Paul. Est-ce que vous comprenez? Ils veulent faire du mal à Paul. Ils annoncent lui. Ils annoncent Christ. Ils ne disent pas que Christ est faux. Ils ne disent pas que Christ n'a pas travaillé. Non, non, non. Ils annoncent Christ. Mais l'intention n'est pas bonne. Paul dit, ce n'est pas grave. L'essentiel, Christ est annoncé. Les gens vont être sauvés. Hallelujah. C'est ça qui m'importe. Moi, ma vie n'est pas grave. Donc, je disais que les premiers là, ils ont été quand même licenciés. Celui-ci, par exemple, il sera licencié par le Seigneur. Alléluia. Parce que le but dans lequel il annonce là, les dispositions avec lesquelles il annonce, ce n'est pas les dispositions que le Seigneur veut. Ce n'est pas les dispositions que le Seigneur demande. Alléluia. Et donc, ça nous amène à nous poser la question, mais donc notre Dieu, c'est quoi son problème? C'est qu'est-ce qu'il regarde? Mais s'il ne regarde pas le travail qu'on fait, s'il ne regarde pas les résultats, mais qu'est-ce qui importe à notre Dieu? Et donc, le plan, ça va être, donc, on va voir d'abord le domaine de validité de notre service dans le Seigneur. Ensuite, on va voir que veut le Seigneur et quel enseignement pour nous aujourd'hui. Donc, on va parler du domaine de validité. J'aime bien ça. Pour ceux qui ont fait les mathématiques comme Pasteur Eman, ouais, quand on donne une fonction, f de x est égal à quelque chose, la première question, on dit déterminer la forme de validité. Parce que ce n'est pas tous les x qui vont rentrer dans cette fonction et qui vont donner un résultat. Il y a des X qui vont rentrer et ça ne peut pas donner des résultats. Ça met erreur. Tu mets le X, ça met erreur. Quand tu mets par exemple la fonction 1 sur X, on dit c'est défini sur R privé de l'élément 0. Parce que si tu mets 0 dans cette fonction, la machine met erreur. Tu mets 0, ça met erreur. Mais il y a d'autres fonctions, quand on met la fonction 2X, tu mets 0, ça donne l'image. Ça donne l'image 0. Donc le domaine de validité, il est important. Extrêmement important. Parce que les fonctions ne sont pas définies pour tout le monde, pour tous les X. Le travail de Dieu n'est pas défini justement pour tout le monde. Et donc, on va voir ce qui importe au Seigneur. Il faut savoir que Dieu ne cherche pas ce que j'appelle des entrepreneurs d'action. C'est-à-dire que des gens qui sont là pour faire, pour faire, pour faire, pour chanter, voilà. Pour parler, pour jouer le piano. Il ne cherche pas des entrepreneurs d'action. Des gens qui font les programmes. Il n'en a pas besoin. Pourquoi il n'en a pas besoin? Parce que il peut utiliser qui il veut pour le faire. Si c'est pour faire une action, si c'est pour faire une action, Dieu peut utiliser qui il veut. Vous voyez que quand il voulait punir son peuple d'Israël, il a utilisé les rois païens pour les punir à plusieurs fois, pour les déporter. Et quand vous lirez dans la Bible, vous allez voir que ces rois-là, des fois, ils ont voulu se dire qu'ils sont forts. Et puis, ils ont commencé à se moquer du peuple d'Israël. Mais Dieu les a punis. Il dit non, non. Que si vous avez pu vaincre mon peuple, ce n'est pas parce qu'ils sont faibles, c'est parce que moi, je voulais les punir, que j'ai permis que vous arriviez à les déporter. Mais sinon, vous ne pouvez pas. Et Dieu les a punis. Et quand on lit la Bible, on voit ce genre d'histoire-là. Donc, Dieu peut utiliser qui il veut pour faire ce qu'il veut. N'a-t-il pas donné une prophétie, pardon, une vision au roi de Nebuchadnezzar, qui a été interprétée sur la suite des temps? Nebuchadnezzar, ce n'est pas un enfant de Dieu, c'était pas un, il ne servait pas le Seigneur. Non. Donc, si c'est pour faire, si c'est pour faire, Dieu peut utiliser n'importe qui. Donc, ce n'est pas ça qu'il attend de nous. Dieu n'est pas intéressé par la quantité ni la qualité du travail que nous faisons. Il n'est pas intéressé par la quantité. Pourquoi? Parce qu'il a dit, il peut donner à tout le monde. Et ce n'est pas toi qui apportes une expertise. Vous voyez, quand nous, on travaille dans le monde, là, on me dit, ah, mais c'est... Celui-là, il a des atouts. Hein. Si on le laisse à non, non, l'entreprise, il faut le prendre. Donc, on mise, on met la main sur la table. Mais Dieu n'a pas besoin de ça parce que tu n'as pas d'atouts qui viennent de toi. Il dit dans 1 Corinthiens 4, verset 7, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Qu'est-ce que tu peux faire valoir que tu n'as pas reçu? Et si tu l'as, pourquoi t'en glorifies-tu? Parce que tu joues au piano, c'est pour ça que tu vas dire que tu es fort. Donc tu penses que Dieu ne peut pas trouver quelqu'un qui va jouer au piano? Non. Ce n'est pas ça qui est important chez Dieu. Ce n'est pas important chez Dieu. Et même si c'est un travail qualitatif, c'est-à-dire que tu as fait quelque chose que personne même n'a vu, non, Dieu n'est pas. Ça n'émeut pas Dieu. Parce que dans Éphésiens 2, verset 10, il dit que lui-même, il a préparé d'avance les œuvres pour que nous les pratiquions. Donc, en termes d'œuvres physiques, le Seigneur, ça ne l'intéresse pas. Ce que tu fais. Dans un premier temps, bien sûr. Dans un premier temps. Ce qui intéresse le Seigneur, et on va le voir, dans 1 Pierre 1, verset 15 à 16. 1 Pierre 1, verset 15 à 16. Il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints. Car je suis saint. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Car il est écrit, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est la sainteté. C'est à ça qu'il regarde d'abord, avant toute chose. Il regarde à ça d'abord. Et ce message-là, peut-être que les gens peuvent dire que non, ce verset est dur. Mais Pierre, qui a écrit, il écrivait aux Juifs dispersés dans l'Asie mineure. Donc, il n'écrivait pas à des super hommes. Il n'écrivait pas à des pasteurs, des gens de 20 ans de ministère. Non, 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 non. L'Église même venait de naître. Il écrivait à des gens comme vous et moi. Si aujourd'hui il était ici, il pouvait prêcher le même message. Puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans toute votre conduite. dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Donc, c'est ça là, c'est pour monsieur et madame, tout le monde qui a accepté le Seigneur, bien sûr, qui a accepté le Seigneur. Cette parole s'applique à 100%. On ne peut pas faire de restriction. On prêche cette parole à un chrétien qui est nouveau-né aujourd'hui. En fait, quand je dis nouveau-né, je veux dire qui a accepté le Seigneur aujourd'hui. On la prêche à celui qui a accepté le Seigneur, qui il y a 50 ans. On la prêche. Elle n'est pas... C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Ça, il faut que je sois clair pour vous. C'est pour tout le monde. Donc, ce n'est pas réservé à une élite dans le Seigneur. Non. Puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez saint dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint. Et c'est là maintenant que nous allons définir les autres choses. Nous allons parler de ça. J'ai mis un peu comme plusieurs points. Ne pas craindre de déclarer que le péché n'est pas acceptable. Donc, il ne faut pas craindre ça. Parce que, ok, ne pas craindre de déclarer que le péché n'est pas acceptable. Il ne faut pas craindre cela. Parce que souvent, on vit dans une société où on ne veut pas choquer, où on veut peut-être accommoder les gens. Mais non, pour le péché, on ne peut pas le faire. 1 Jean 3, 8 dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Il faut faire la différence entre pratiquer le péché et puis péché. La Bible dit dans 1 Jean 1, 8 à 9, c'est quoi? Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Et si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Donc, il faut faire la différence. Vivre dans le péché et faire un péché, ce n'est pas la même chose. Mais c'est des choses sur lesquelles il faut statuer. Celui qui baigne, qui se réveille dans le péché, qui prend son déjeuner dans le péché, qui prend son dîner dans le péché, qui prend son souper dans le péché, qui dort dans le péché, celui-là, il n'est pas qualifié pour faire l'œuvre de Dieu. Une quelconque œuvre de Dieu, il n'est pas qualifié. Celui en qui le péché demeure, il n'est pas qualifié pour faire le péché. Alors les gens diront, oh, qui tu es pour juger? Ce n'est pas une question de juger. C'est une question d'exiger la nature de Dieu dans le travail que Dieu lui-même demande. Parce que si c'est pour dire juger, 2 Timothée 2, 19 dit, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Quiconque, c'est-à-dire que si quelqu'un vient parler du Seigneur, il faut qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc moi qui suis ici, qui vous parle aujourd'hui, qui ai le privilège de vous parler, mais en même temps aussi une responsabilité, parce que ce que je dis me concerne aussi. Si je prononce le nom du Seigneur, je dois m'éloigner de l'iniquité. Et si on n'est pas capable, dans l'église qui est la maison du Seigneur, de le dire, mais c'est que ça ne va pas. Et si on doit permettre qu'on prenne le nom du Seigneur comme ça, c'est ce que la Bible appelle prendre le nom de Dieu en vain. Ça dit que tu ne t'éloignes pas du péché et tu prononces le nom du Seigneur. Tu es en train de prendre le nom du Seigneur en vain. On continue pour dire qu'il faut traiter la question du péché. Et le péché, comment on le traite? On sépare. Ça encore, quand tu vas en parler, les gens vont dire que « Mais tu prêches des choses qui ne sont pas vraies. » Non, je prêche des choses qui sont vraies. Dans Matthieu 18, 15 à 17, Jésus a donné la manière dont traiter la question du péché dans l'Église. Là, ce n'est pas une interprétation de quelqu'un, d'un apôtre. Ce n'est pas une interprétation de quelqu'un d'autre. Matthieu 18, 15 à 17, et c'est Jésus même qui le dit. Ce n'est pas un apôtre qui a péché aussi haut. Ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas fils de Dieu. C'est Jésus lui-même qui le dit. Et j'aime ça. Il dit, si ton frère a péché, alléluia, si on s'arrête là-même, comment tu vas voir que ton frère a péché? On dit, bon, les gens disent, ne juge pas. Bon, donc comment tu vas voir si ton frère a péché? Comment tu vas voir? Donc ça veut dire que ce verset-là n'est pas vrai. Parce que si, le plus souvent, quand tu parles de traiter le péché, les gens disent, non, ne juge pas. Ok, On ne va pas juger, d'accord. Mais Jésus dit que si ton frère a péché, et il parle à nous, n'est-ce pas? Il ne parle pas aux anges, il parle à ses disciples. Donc, comment nous, on va faire pour savoir que notre frère a péché? On va regarder et puis on va voir, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas une question de juger. Ce n'est pas une question de juger. Donc, si ton frère a péché, va et reprends-le en toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur une déclaration de deux ou trois témoins. Donc, un, tu vas toi seul, tu lui parles. Deux, tu prends une ou deux personnes pour aller lui parler. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Donc, c'est pour ça qu'il dit qu'il est en train de parler de l'Église. Il n'est pas en train de parler d'un club, mais il parle de l'Église. Et s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Ça veut dire que vous le laissez. Ça, c'est Jésus qui a dit, hein. Jésus qui est venu mourir pour toi et moi. C'est comme ça qu'il me dit de te traiter. Donc, ce n'est pas une affaire de sentiments. Ça veut dire que je te vois, tu vis dans une situation qui n'est pas correcte. Je viens t'en parler, j'arrive chez toi, je t'en parle. Tu ne sembles pas comprendre. Je viens voir la sœur Jeanne et le frère Badam. J'ai dit, le frère, il vit dans quelque chose qui n'est pas bien. Il faut qu'on aille lui parler. Ça ne marche pas. On vient, on appelle le pasteur Eman, on lui en parle. Le frère dit non. La Bible dit que vous le considérez comme un parrain. Oui, mais nous les hommes, on est sentimental, vous voyez, on est sentimental. On aime les hommes plus que Jésus. Jésus même qui a quitté le ciel pour venir mourir. On aime les hommes plus que Jésus. Donc, on ne fait pas ça. On dit non, on ne sait pas. Un jour, il va se repentir. Donc, laissons. Parce qu'un jour, mais qui tu es pour Jésus? Tu ne sais pas, un jour, il peut se repentir. Si un jour, Jésus voulait appliquer ce un jour, il n'aurait pas donné ce verset. Parce que c'est une charge que Jésus donne. C'est comme ça qu'une église doit fonctionner. Donc, si Jésus, qui est le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant, celui qu'on suit, celui qui est Dieu élevé dans tout, qui est venu mourir, qui est maintenant assis à la droite de Dieu, au-dessus des dominations, autorité, puissance, dignité de tout notre... Si c'est lui qu'on appelle notre Seigneur, si lui dit de faire, donc moi, vraiment, je ne vois pas quel autre argument on peut trouver, je ne vois pas quelle excuse on peut trouver pour ne pas le faire. Dernier point sur la sanctification. La sanctification, c'est partout. Ce n'est pas seulement quand nous sommes ici qu'on va regarder comment nous vivons. Non. Ce n'est pas seulement quand nous sommes ici. C'est partout. 2 Corinthiens 5, verset 20 dit que nous remplissons les fonctions d'ambassadeur. Alléluia. Qu'est-ce qu'un ambassadeur? Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est un État norme et puis qui représente l'État dans un autre État, là où il est. Nous exécutons les fonctions d'ambassadeur pour Christ. C'est-à-dire que là où nous sommes, nous représentons Christ. Que ce soit ici, que ce soit dans la rue quand nous allons passer, que ce soit dans notre maison, au travail, partout. Nous représentons Christ. Alors, on ne peut pas dire que comme le frère Moussa est ici et qu'il se comporte bien, et que quand il va dehors, il fait des bêtises, que ce n'est pas grave, comme c'est dehors, laissons tomber. Non, on ne peut pas laisser tomber. On ne peut pas laisser tomber. La vie, le témoignage, c'est partout. Parce qu'à l'église, ici, il n'y a pas de témoignage. Ce n'est pas le lieu de témoignage, l'église. L'église n'est pas le lieu de témoignage. L'église, c'est le lieu de l'exercice, mais ce n'est pas le lieu du témoignage. Le témoignage, c'est dehors qu'on rend le témoignage. Vous voyez, dernièrement, le pasteur nous a demandé de remplir des fiches de police, nous qui sommes membres du comité officiel, n'est-ce pas? On est allé à la police de Oula pour que la police dise qu'on n'a pas de casier. Pourquoi ils ont demandé ça? Parce que l'église veut agir à titre autonome et comme nous sommes les membres du... un peu comme le conseil d'administration. Donc, on exige que les membres du conseil d'administration soient clean. Mais, entre nous, est-ce que ma vie dehors, ça intéresse Saint-Henri? Est-ce que normalement, ça intéresse Saint-Henri? Non. Mais l'administration canadienne dit que pour que moi, je sois membre du comité officiel de Saint-Henri, il faut que j'ai une vie clean. Mon rapport de police doit être clean. Sinon, je ne peux pas. Mais si dans le monde, on dit ça, pourquoi dans le Seigneur, on ne dira pas ça? Parce que la vie que je mène dehors, Saint-Henri ne paye pas mon loyer. Saint-Henri ne me donne pas d'argent. Il ne paye pas mon carburant. Saint-Henri ne me donne pas. Au contraire, c'est moi qui cotise même pour Saint-Henri. Donc, à la limite là, c'est moi qui dois agir des choses de Saint-Henri. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est une façon de parler. C'est pour vous montrer l'importance de la chose. Donc, et malgré ça, le gouvernement me demande de démontrer quelque chose pour travailler à Saint-Henri. Mais à combien plus forte raison, donc, l'Église, on doit le faire. Pour dire que même la vie de dehors des membres que nous sommes ici intéresse l'Église. Vous n'avez pas entendu de ces exemples-là où l'Église a été discréditée dehors, où on a vu, on sort des fois, on va quelque part, on trouve des amis et puis on salue un frère, on dit, hey, frère, comment ça va? Et puis l'autre dit, ah, c'est ton frère, vous connaissez où? Puis on dit, non, on est de la même église, la même chorale. Ah, lui aussi, il chante dans la chorale. Ah ouais? Et déjà. Donc, lui aussi, il chante dans la chorale. Mais quelle chorale ça? L'église méthodiste. Tiens, mon Dieu. Ça dit que quand les gens disent ça, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils connaissent que le monsieur, la vie qu'il mène, n'est pas digne qu'il chante dans une chorale. Mais nous, on l'accepte dans la chorale. L'église l'accepte dans la chorale. Le monde même dit qu'il ne peut pas l'accepter. Mais nous, l'église, on l'accepte. Donc, mais c'est comme ça, malheureusement. C'est comme ça que les choses vont. Et il faut que l'église statue. Il faut que chacun regarde les choses. Que veut le Seigneur? Qu'est-ce que veut le Seigneur? Il faut passer la diapo. Encore, ouais. Que veut le Seigneur? Le Seigneur veut ta vie tout entière. Parce que si c'est des gens pour faire des choses, c'est pas ça que le Seigneur veut. Il a dit lui-même que si vous taisez, les pierres vont sonner. Non, c'est pas ce qu'il a dit quand Jésus était monté sur l'anneau. Et puis les gens disent, il criait, non, non, il faut vous taire. Il dit que si vous taisez, ces pierres ici vont sonner. Le Seigneur veut ta vie toute entière. Vous voyez, dans Jean 4, verset 24, c'est vrai, il est dit que, et voici les adorateurs que Dieu sait. Dieu sait ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que Dieu recherche. On a pris ça pour adoration. Et puis les gens, ils ont pris ça pour chanter parce qu'on pense que adorer, c'est chanter. Non, adorer, c'est pas seulement chanter. C'est pas forcément chanter. Donc ceux qui ne chantent pas, ils ne peuvent pas adorer. Si quelqu'un, elle a dit, n'a pas de voix, il ne peut pas adorer. Si, on peut adorer. Vous allez voir dans Genèse, Genèse 22, quand Abraham devait sacrifier Isaac, il a dit à ses serviteurs, restez ici, moi et l'enfant, nous allons aller adorer. C'est la première fois où le mot adorer a été utilisé dans la Bible. Nous irons adorer avec l'enfant. Donc, adorer, en fait, c'est rendre service à Dieu. C'est servir Dieu avec toute la révérence, avec tout, c'est pas, c'est rendre le culte à Dieu. C'est ça qui fait l'adoration. C'est pas chanter, c'est pas quelque chose. Donc, ce que Dieu a dit pour les adorateurs et que nous on considère comme chanter, on peut le dire pour toutes choses. On peut dire que tous ceux qui prêchent, prêchent en esprit et en vérité. On peut dire que tous ceux qui font les annonces le fassent en esprit et en vérité. On peut dire que tous ceux qui enseignent les enfants le fassent en esprit et en vérité. On peut dire que tous ceux qui sont à l'accueil le fassent en esprit et en vérité. Et vous savez pourquoi? Il y a des passages bibliques pour soutenir cela. Je crois que c'est dans Actes 5, je n'ai pas mis ici, mais dans Actes 5, lorsqu'il y a eu parole avec les Hellénistes, je crois, et puis on devait chercher des gens pour distribuer la nourriture. OK? Les critères qu'ils ont donné pour des gens qui devaient distribuer la nourriture là. Mais c'est comme des critères des pasteurs. Hein. C'est-à-dire que de nos jours, c'est le critère des pasteurs. On ne pouvait pas comprendre. Vous n'avez pas lu la Bible, vous ne pouvez pas comprendre que c'était des critères qui ont été donnés pour des gens qui devaient distribuer la nourriture. C'est parce que vraiment, c'est pas. C'est acte 6 ou bien quoi? C'est pas 5, 6. Ouais, c'est 6, pardon. Sorry, 6. En ce temps-là, les nombres des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Okay? Les 12 apôtres convoquaient la multitude des disciples et dirent, il n'est pas bon, il n'est pas convenable que nous laissions la parole pour servir aux tables. Donc les disciples ont dit, les apôtres, les gens, ils ont dit, bon, on ne peut pas laisser la parole de Dieu pour aller distribuer la nourriture. Donc on va choisir, on va prendre des gens qui vont le faire. Okay? Voici les critères de ceux qui devaient distribuer la nourriture. Comme de ceux qui s'asseyent ici lorsqu'il y a la fête et puis on nous sert. Voici leur critère. C'est pourquoi? Choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Alléluia. Où on va avoir le témoignage? Merci. Donc on les a jugés. Est-ce qu'on les a jugés? Non. Parce que les chrétiens, ils aiment employer le mot juger là, à tort et à travers. Qu'ils soient pleins d'Esprit Saint. Alléluia. Donc, pour distribuer la nourriture, pour dire, hey, Jeanne, voici assiette, il faut manger. J'ai besoin d'être rempli de l'Esprit Saint. Et de sagesse. Si pour donner la nourriture, pour aligner les gens ici, pour nous servir la nourriture, on doit être rempli d'Esprit Saint. À combien plus forte raison ceux qui doivent s'arrêter ici pour chanter là? À combien plus forte raison ceux qui doivent aller enseigner les enfants en bas là-bas? On ne peut pas, ce n'est pas du joke, on ne peut pas s'amuser avec ça. Ce n'est pas une question avec laquelle on peut s'amuser. Les critères, ils sont là. Ils sont importants. Et il faut le faire en esprit et en vérité. Quoi que tu fasses dans la maison de Dieu, c'est en esprit et en vérité. Jean 21, 15 à 18, c'est le verset qu'on avait vu la semaine dernière et qui a valu 20 dollars à quelqu'un. Jésus a demandé à Pierre, Simon Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Une fois. Deuxième fois. Simon Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que le même ceci? Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Demande une troisième fois. Simon Pierre, est-ce que tu m'aimes vraiment? Aïe, Seigneur Jésus. Tu sais que je t'aime. Tu sais tout. Il a commencé à avoir peur. Et Jésus lui a dit, paie mes brebis. Paie mes brebis. Comme tu m'aimes. Il faut paître mes brebis. Ce que Jésus voulait s'assurer, c'était que Simon Pierre l'aime pour qu'il fasse paître ses brebis. Sinon, ce n'était pas la peine. L'amour, c'est l'amour de Dieu. C'est la condition suprême pour faire l'œuvre de Dieu. On ne fait pas l'œuvre de Dieu par orgueil. On ne fait pas l'œuvre de Dieu comme pour dispute, pour se disputer, pour plaire aux gens qui voulaient rivaliser avec Paul. On fait l'œuvre de Dieu par amour. Pourquoi? Parce que c'est l'amour qui te permet de garder les commandements de Dieu. Parce que c'est l'amour qui te permet d'obéir à Dieu. Dans Jean 14, 23 à 24, Jean 14, 23 à 24, la parole de Dieu dit, Jésus leur répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais de mon Père qui m'a envoyé. Alléluia. Il sait pourquoi il a dit l'amour. Si quelqu'un m'aime, il va garder ma parole. S'il ne m'aime pas, il ne gardera pas ma parole. Et il dit, ce que je vous dis, ce n'est pas moi, ça vient de mon Père. Donc, Jésus nous a dit ça. Le Père nous dit ça. Donc, tu vas aller où si tu n'aimes pas la parole de Dieu? Si tu n'aimes pas le Seigneur. Il n'y a pas de place pour toi dans le service de Dieu si tu n'aimes pas le Seigneur. Tu peux faire le travail, mais tu n'es pas en train de servir le Seigneur. À la fin, le Seigneur va dire, je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Il ne faut pas qu'on court ce risque-là, frère et soeur. Quel enseignement pour nous aujourd'hui? Mais il faut rechercher donc la sanctification de façon active. Il faut poursuivre la sanctification. Il faut aller où tu peux pour trouver la sanctification. Hébreux 12, 14 dit, Hébreux 12, verset 14 dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle. Donc, laquelle est rapporté à sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Il faut que nous recherchions la sanctification. Et c'est pas une recherche passive, ça doit être une recherche active. Le Seigneur doit voir que notre esprit est porté à ça. On cherche à être sanctifié, on cherche à garder, et à garder le Seigneur. On veut rester dans la maison du Seigneur. Et deuxième chose, il faut garder l'amour. Il faut garder l'amour de Dieu. Je vais vous lire ce verset-là, Matthieu 24, verset 12 à 13. C'est un verset que j'aime beaucoup et qui est plus que d'actualité. Matthieu 24, verset 12 à 13, qui dit, et parce que l'iniquité, parce que le péché, parce que le désordre, parce que toutes ces choses-là se seront accrues, auront grandi, auront pris des mesures grandes, de façon exponentielle, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Oui, parce que l'amour de Dieu, c'est vrai qu'on l'exerce dans le monde où nous vivons, mais quand nous voyons que même ce que nous considérions comme bon, et pardon, comme mauvais, tout le monde est en train de le considérer comme bon, C'est-à-dire que tu te lèves chaque matin et puis tu dis, mais attends, c'est moi-même qui suis en erreur ou bien c'est... Mais qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui n'ai pas bien compris la parole de Dieu. Et chaque matin, le monde te boum, 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 boum. La télévision t'allume ça. Partout, dehors, tu commences à baisser. Tu commences à baisser la garde. Parce que rien au dehors ne te permet de conserver cette garde. Jésus dit, faisons attention. Parce que le péché va grandir. L'amour du plus grand homme va se refroidir. Donc, gardons notre amour. Parce que notre amour risque d'être refroidi. S'il n'a pas déjà été refroidi. Notre amour risque d'être refroidi par tout ce que nous voyons autour de nous. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Et c'est important. Nous vivons, comme je l'ai dit, dans le monde où le monde veut nous faire accepter le péché comme étant normal. Je ne vois pas cet effort qu'il veut faire. Mais ils sont en train de réussir. Ils sont en train de réussir. Parce qu'ils ont réussi à faire pénétrer ces choses même dans l'église. Regardez le système des LGBTQ+, Papati Z, machin, tout ce qui va venir après, derrière, je ne sais pas. Mais comment ce truc a fait pour entrer dans l'église? Point où des pasteurs te laissent. Comment ça fait? Ce qui a fait que Dieu a détruit Sodome et Gomorre aujourd'hui. Mais ça veut dire que Dieu même, s'il était là aujourd'hui, il va bousiller l'église ici. On est pire que Sodome et Gomorre. Vrai ou faux? Il y a des pasteurs homosexuels. Et l'église a peur d'en parler. L'église a peur d'en parler. Moi, je vais donner un témoignage. Réel. Vous savez, l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. Là, on est dans les années 2000. Nous, on était tout jeunes, dans la jeunesse, bouillant. Il y a quelqu'un qui est parti aux États-Unis. Je ne sais pas qui. Ce n'est même pas un pasteur. C'est des gens qui ne sont pas dans la sainteté de Dieu. Là. Il est parti aux États-Unis. Okay? Il a découvert là-bas le mouvement Église méthodiste unie. Et puis, on lui a vendu que ouais, c'est un mouvement qui va venir, qui va aider l'Église, qui va payer les pasteurs, qui va vous construire les hôpitaux, qui va verser ça. Okay? Il est venu. Je précise que ce n'est même pas un pasteur. Hein? C'est un laïc qui est venu. Il a vendu ça au bishop. Oh, en ce temps, il n'y avait pas de bishop. On l'appelait le président de la conférence. Il a vendu ça. Il a vendu son produit au président de la conférence de l'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. Et on ne sait pas comment ils ont fait. Nous, moi, je me rappelle que les jeunes, on était contre ça. On a dit que non, ces gens-là, c'est des gens qui n'ont pas de base, c'est des gens qui acceptent la légèreté, c'est des gens qui acceptent l'homosexualité. On était dans les années 2000. Je vous rends un témoignage réel. On était dans les années 2000. Donc, nous, on avait 23, 24 ans. On était jeunes, bouillant, c'est 25. On a dit non, on ne veut pas. Mais l'Église, les pasteurs qui ont tout pouvoir, ils se sont levés. Ils sont rentrés dans l'émission. Ils disent que les textes disent, c'est ce qu'ils nous ont dit, que les textes disent que non, on rentre et que si on n'est pas d'accord avec les pratiques de l'un ou de l'autre, on ne fait pas. Et que nous, on garde nos pratiques. Mais j'ai dit, mais pourquoi donc vous avez besoin de rentrer? C'est ce qu'on leur a demandé. Pourquoi vous avez besoin de rentrer si vous allez garder vos particularités? Restez à côté et puis fraterniser ou bien quoi? Pourquoi vous avez besoin de changer? Ça m'énerve quand j'en parle. Église protestante méthodiste, ils ont changé le nom de l'église qu'ils n'ont même pas créée. Et ça m'énerve jusqu'au plus profond de moi quand j'en parle aujourd'hui. Parce que je trouve que ces pasteurs qui ont changé le nom de l'église, ils n'avaient pas le droit de le faire. Ce n'est pas eux qui ont créé l'église. Je peux comprendre qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se lève, qui crée son ministère, demain, il change l'église. Dieu lui a donné une autre vision. Oui, d'accord. Mais ce n'est pas toi qui as créé l'église protestante méthodiste. Ça, c'est depuis Wesley. De quel droit vous venez vous changer? Ils ont changé. Contre notre gré, ils ne nous ont pas demandé. Cette année, en avril, j'étais en Côte d'Ivoire. Il y a eu la réunion mondiale de l'EMU, où l'EMU a statué sur le problème de l'homosexualité. Pour dire que l'homosexualité, eux maintenant, l'EMU, donc Église méthodiste unie, quand il dit EMU, c'est Église méthodiste unie, pour dire que ils vont autoriser maintenant ça officiellement dans l'Église. Donc le bishop, maintenant, en avril ou mai, avril, c'est là maintenant qu'il annonce à l'Église que l'Église de Côte d'Ivoire donc a décidé de sortir de l'EMU et de l'EMU monde. Mais ce n'est pas la honte, ça. Ça ne fait pas honte. Comment vous, pasteur, Vous n'aviez pas vu que ce n'était pas bon. Et j'ai discuté avec un pasteur, il me dit c'est un problème de société. Que dans le temps où ils entraient, ils n'avaient pas connaissance de ça. Je lui ai dit c'est faux. Comment moi qui étais jeune, 23, 24 ans, quelque chose, j'avais connaissance de ça. Et vous, qui êtes pasteur, vous venez me dire que c'est un problème de société. Non, c'est parce que vous avez vu que peut-être le peuple de Côte d'Ivoire allait vous vomir. C'est pour ça que vous avez changé. Maintenant encore, ils ont changé le nom de l'église encore. Maintenant, l'église s'appelle Église méthodiste. Donc, vous êtes là, vous ne foutez rien, vous ne créez pas d'église, et vous êtes là, vous changez le nom des églises. Et ça m'énerve au plus haut point. Donc, on est passé de Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. On est passé Église méthodiste unie, tiret, Côte d'Ivoire. Maintenant, depuis septembre, depuis parce qu'ils ont fait la conférence il n'y a pas longtemps, on est maintenant Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Vous jouez avec la vie des gens. Vous comprenez? Et ça, c'est quelque chose de réel. C'est quelque chose de réel. Les gens, les pasteurs font des bêtises et puis nous, les fidèles, on est obligés de supporter. Et ça ne marche pas. Mais ce n'est pas grave, c'est ça que le Seigneur dit. Et moi, je vous dis en vérité, ne regardez pas la vie de quelques pasteurs de faire pour votre foi à Dieu. Non, non, c'est une foi personnelle. Parce que là où on s'en va, les pasteurs vont vous lâcher. Parce qu'ils ont d'autres préoccupations. Ils sont dans d'autres choses. Je ne dis pas ça pour critiquer un quelconque pasteur. Mais je vous ai donné cet exemple-là. Pour dire que ce n'est pas au pasteur qu'on regarde. Il faut regarder à la parole de Dieu. Et la conclusion, on va arriver à la conclusion. La conclusion, ce n'est même pas moi qui vais la donner. La conclusion, c'est un défi que le monde même nous lance. J'avais voulu vous montrer la vidéo, mais la sœur ne peut pas jouer la vidéo. Donc, je vais la jouer ici et puis mettre le son. Donc, vous n'aurez pas la vidéo, vous aurez le son. Ce n'est pas grave. C'est ça qui est plus important. Vous aurez le son. C'est ça qui est plus important.
On passe aujourd'hui au Pierre Noir. Ce rôle qu'on retiendra aussi, je pense, c'est l'ensemble des transgressions qu'on y a vues de toute nature. Et dans 10 ans, soit ces transgressions seront devenues naturelles et banales, et elles ne choqueront plus personne, soit au contraire, ces transgressions seront ressenties comme la mesure de ce que 2024 était un moment de décadence et qu'il fallait revenir en arrière. Nous verrons dans 10 ans. Si la transgression est devenue ouverture vers la liberté, ou au contraire, si 2024 aura été un point d'inflexion vers un retour obscurantiste, nostalgique, qui aura marqué la fin d'une époque de liberté. Je ne pense pas que le pire soit le plus vraisemblable. Je pense au contraire que ce qui s'ouvre ici est une période où la France aura ouvert une voie.
Je pense que la France aura ouvert une voie. Ça, c'est M. Attali qui parle, co-organisateur des Jeux Olympiques de Paris. Donc, ce n'est pas un monsieur n'importe qui. C'est un sachant. Il dit qu'entre autres choses, ce qu'on retiendra des Jeux Olympiques, c'est les transgressions de tout genre qu'il y a eu. Ça me fait rire. C'est-à-dire que quand eux-mêmes faisaient, ils savaient que c'était des transgressions. Alléluia. Ils savaient, ils ont fait exprès. Et puis maintenant, il dit, dans 10 ans, on verra. Si le monde va dire que non, non, vous êtes allé trop loin. Ou si dans 10 ans, ces choses qu'on a considérées comme transgressions aujourd'hui vont être normales. Mais, donc je dis, ils ont exposé les transgressions grandement. Ils ont ouvert la porte, ce que j'appelle. Il dit à la fin, la France a ouvert une voie. La voie qu'ils ont ouverte, c'est la porte du séjour des morts. C'est ça qu'ils ont ouvert. Alléluia. C'est ça qu'ils ont ouvert. Et il nous donne 10 ans pour voir. Le défi, l'Église, 10 ans. Je ne peux pas mettre 5 fois 2, 10 ans. Le monsieur, il lance un défi au monde entier. 10 ans. On va voir. Si cette transgression passait. Ça a choqué le monde entier, hein, ceux qui ont regardé les témoignages, ça a choqué le monde entier. Dans 10 ans, on va voir si ça choquera encore le monde. Ou si, dans 10 ans, on va dire non, mais ils n'ont rien fait de grave. Mais voyons donc, ils n'ont rien fait de grave. Le défi est lancé. Mais moi, je vous dis qu'ils ont ouvert la porte du séjour des morts. C'est ça qu'ils ont ouvert. Mais le Seigneur Jésus, nous donne le pouvoir sur ça. Dans Matthieu 16, 18 à 19, il dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église, je te donnerai les portes du royaume, laissez-moi bien lire ça, okay, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi. Donc, eux, ils ont fait. Il a dit, Paris a ouvert une voie. C'est pas si vous comprenez. Ils savent de quoi ils parlent, ceux-là. Ils savent dans quoi ils sont. Paris a ouvert une voie. Moi, je vous dis, c'est la voie du séjour des morts. Voilà. De façon spirituelle. Mais, c'est pas grave. Parce que l'église que tu es, nous, le Seigneur nous a donné le pouvoir. Il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre nous. Alléluia. Dernière slide. Mais est-ce que toi, tu es prêt à faire échouer le plan, leur plan, avec le pouvoir que le Seigneur te donne? Est-ce que tu es prêt? Parce que ça dépend. Eux, ils ont lancé. La balle est dans ton camp. Si tu utilises Matthieu 16, 18 à 19, tu vas bousiller leur plan. Mais si tu ne vis pas dans la sainteté, si tu tolères le péché, il est fort à parier que tu vas contribuer à la réalisation de leur plan. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Mais, rien, la balle est dans ton camp. C'est chacun qui décide. En tout cas, moi, j'ai décidé de finir avec tout ce qui est péché, de dénoncer à tout niveau. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun dit ce qu'il veut. Mais la guerre est plus rude que jamais. Et c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.